C'est l'équivalent du budget de l'éducation nationale plus celui de l'intérieur.
Nous sommes le vendredi 3 mai 2024, 03-05-24. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
7h, 9h,
RTL Matin,
avec Amandine Bégaud et Yves Calvi.
Et le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
Bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, les portes de Sciences Po Paris n'ouvriront pas ce matin.
Un de ses principaux bâtiments sont de nouveau occupés par des étudiants pro-palestiniens.
Une mobilisation qui touche désormais Lille, Lyon, mais aussi Saint-Étienne. Je reçois ce matin le patron du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Jonathan Arfi sera mon invité à 7h40.
Emmanuel Macron persiste et signe. Le président met de nouveau la Russie en garde d'un envoi de troupes française à Kiev. Et dans ce contexte, la foule se presse en ce moment à une drôle d'exposition à Moscou, celle des prises de guerre en Ukraine. Et puis des chiens capables de détecter à l'avance les crises d'hypoglycémie de leur maître. Reportage fascinant en fin de journal.
Extraordinaire. Le secrétaire général du guide du retard, Gavin Clemente-Ruiz, nous invite au voyage. Il affirme d'ailleurs qu'il peut sauver la planète. On lui demandera des explications à 8h20.
RTL Matin.
La mobilisation des étudiants pro-palestiniens ne faiblit toujours pas ce matin en France. Nous sommes tous des enfants de Gaza, scandé hier soir à Sciences Po Lyon. Les étudiants ont été rejoints par l'insoumise Mathilde Panot qui a partagé cette vidéo en ligne. Ce matin, la majorité des bâtiments du campus parisien sont de nouveau fermés. La direction de Sciences Po a bien organisé un débat comme les étudiants le réclamaient. Mais pour eux, cela ne suffit pas, Nerissa Imani.
Oui, les étudiants n'en démordent pas. Sciences Po doit prendre position et condamner la guerre menée par Israël à Gaza. Ismaël porte un keffieh sur le dos, cet étudiant et porte-parole du comité Palestine.
Contrairement à la politique de l'institution suisse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, aucune condamnation des violations du droit international par le gouvernement d'Israël n'a été exprimée. Aucun mail de soutien aux étudiants palestiniens n'a été envoyé et aucun partenariat académique ou financier n'a été remis en question.
Et c'est là le point de crispation. L'école est partenaire de 4 universités israéliennes jugées par les étudiants mobilisés complices de la guerre et de ce qu'ils qualifient de génocide.
Le fait de reconsidérer ou de repenser les partenariats, ça ne veut pas dire boycotter tout chercheur israélien.
Laurie, étudiante sur le campus de Reims.
À Reims, on a accueilli un chercheur israélien, Yoav Shemer. C'est un dialogue extrêmement productif et ce serait dommage de couper ça. Nous, ce qu'on demande, c'est de réfléchir sur ces partenariats. Sciences Po nous dit qu'ils n'ont rien à se reprocher sur le sujet. S'ils n'ont rien à se reprocher, ils n'ont qu'à mettre en place cette commission.
Impensable, répond le directeur de Sciences Po, pour qui la dernière chose à faire serait de couper les ponts entre les universités.
Nerissa Imani, spécialiste éducation de RTL, contestation étudiante aussi aux États-Unis. Pour le président Joe Biden, l'ordre doit prévaloir face aux mobilisations. Côté diplomatique, le Hamas n'a toujours pas donné son accord à une trêve à Gaza, mais dit l'examiner dans un esprit positif. Par ailleurs, un otage israélien a été déclaré mort. C'est le 35e selon Israël sur les 129 toujours en captivité dans l'enclave.
Bientôt 7h03 sur RTL, ce document RTL, le témoignage d'un héros des intempéries.
Le voisin de cette femme qui a perdu la vie dans l'Aisne à Courmel hier, emporté par une coulée de boue. L'eau est montée à plus d'1,60 m dans sa maison. Son mari, lui, a pu s'extirper et c'est grâce au sang-froid et au courage de ce voisin. Écoutez-le.
On m'a réveillé parce qu'il y a eu un torrent d'eau dans la rue et surtout beaucoup de bruit. On avait de l'eau quasiment jusqu'au milieu du ventre, mais c'est surtout qu'il y avait énormément de courant et on prenait aussi bien dans nos jambes que dans nos mains des morceaux du portail du voisin, un bout de mur. Et en fait, en arrivant devant la maison, donc dans la rue, on a vu notre voisin qui se tenait à une voiture. On a pris la décision d'y aller, même si le poteau électrique était dans l'eau, qui nous a fait très peur, et puis lui porter secours et de le ramener à la maison. La seule chose qu'il disait, c'est qu'il cherchait sa femme et où était sa femme. Mais ce sont deux amis de la famille qu'on aime énormément. C'est un très beau couple, très amoureux, mais je pense qu'il va lui falloir du temps. On est content d'avoir secouru cet homme-là, mais on est très triste pour la seconde personne.
Un document RTL recueilli par Simon Marseille. Attention, vous avez jusqu'à ce soir pour vous inscrire sur les listes électorales en mairie. Et on le rappelle, le tout premier débat des 7 têtes de liste dont le parti est déjà au Parlement européen aura lieu sur RTL dimanche avec un grand jury spécial européen de midi à 14h sur RTL et Paris Première et à 18h sur LCP. L'élection, on le rappelle, c'est le 9 juin.
Carla Bruni est entendue par les enquêteurs dans le dossier du financement de la campagne 2007 de Nicolas Sarkozy.
Un financement présumé libyen, son audition hier a duré près de 3 heures. Le juge d'instruction doit désormais décider d'une éventuelle mise en examen ou d'un abandon des poursuites, car Labrunie est soupçonné d'avoir facilité l'achat notamment d'un test PCR pour son amie reine des magazines People, Mimi Marchand, qui partait superviser l'interview de Ziad Takieddine, intermédiaire qui revenait dans cette interview sur ses propos concernant ce financement présumé libyen. RTL vous le révèle ce matin, plus de 10 mois après la mort de Nahel, l'expertise confirme que les mots « balle dans la tête » ont bien été prononcés par l'un des deux policiers mis en cause dans la mort du garçon de 17 ans. Détail dans le journal de 7h30.
On en vient à cette nouvelle mise en garde signée Emmanuel Macron, mise en garde vis-à-vis de la Russie.
Dans un entretien à The Economist, le président réitère la possibilité d'envoyer des troupes françaises en Ukraine, mais à deux conditions. Si Kiev le demande, et si les Russes perçaient les lignes de front. Et c'est dans ce contexte que Moscou expose en ce moment au public ces prises de guerre, des blindés ou des drones présentés tels des trophées. Félix Grasso, vous êtes le correspondant de RTL à Moscou et vous êtes rendu à cette exposition.
Il faut montrer patte blanche pour franchir les portiques de sécurité alignés sur une cinquantaine de mètres. Des couples, des familles, des retraités, des écoliers, des Russes de tous âges, de tous milieux viennent voir cette exposition de trophées, comme l'ont baptisé les autorités. Anton, la vingtaine, fait part de ses motivations.
Ce sont surtout les armements des autres pays qui m'intéressent, parce qu'on peut voir les nôtres tous les jours.
De l'aveu des organisateurs, il s'agit de montrer que les soldats russes résistent et gagnent face à l'Occident et sa technologie. Les opposants à la guerre sont absents, mais l'argument fait mouche auprès de Valentina.
J'avais envie de voir les trophées, les quelques-uns que nos soldats ont pris. Je suis très fière de mon pays et de nos soldats.
Tout le monde ou presque brandit son téléphone pour immortaliser l'instant et certains, comme Oleg, blogueurs, reconnaissent être en mission.
C'est mon hobby, je filme. J'ai dit à mes abonnés que je venais ici. Tout ce qu'ils exposent montre que les forces armées russes travaillent et plutôt bien selon moi.
Voilà qui permet de raviver le sentiment national avant le traditionnel défilé militaire du 9 mai prochain.
Félix Grasso, correspondant de RTL à Moscou.
Le foot, Marseille ne prend pas d'avance en demi-finale de Ligue Europa.
Un triste match nul hier soir au Vélodrome, un partout contre les Italiens de l'Atalanta Bergame. Un match nul et pas mal de regrets, Hugo Hamelin.
C'est ça, un petit goût amer ce matin pour les supporters de l'Olympique de Marseille.
On aurait pu gagner, on mérite quand même.
C'est vrai, Marseille aurait pu mériter mieux, mais les attaquants olympiens ont gâché trop d'occasions pour un futur finaliste européen.
Non, c'est des regrets parce que le manque de technique de devant, que ce soit de Ndiaye par moment, Sarr, Mumbagna, c'est un petit peu handicapé l'OM à ce niveau-là.
Forcément de l'espoir, on n'a pas à rougir. Tout le monde voyait l'Atalanta favori. Au final, on a su montrer qu'on était là présent. Et moins de technique que les Italiens, mais on a su montrer qu'on était là.
Ce n'est que partie remise, comme on dirait.
C'était d'ailleurs le sens du message de Jean-Louis Gasset auprès de ses joueurs.
J'ai dit dans le vestiaire, parce qu'il y en avait quelques-uns qui avaient la tête un peu basse, j'ai dit on est à la mi-temps.
Beaucoup de regrets, quelques espoirs ce matin. Aucun doute, dans une semaine, cette balance des sentiments sera totalement inversée avant le match retour.
Hugo Hamelin, correspondant de RTL à Marseille. Par ailleurs, le procureur a été saisi hier soir après un salut nazi et des cris de singe dans l'enceinte du stade parmi les supporters italiens. Dans l'autre demi-finale aller, le Bayer Leverkusen a battu la Roma 2-0. En Ligue 1, début ce soir de la 32e journée avec à 19h Toulouse-Montpellier avant Lens-Lorient à 21h. À suivre dans RTL Foot dès 20h.
Et presque tous les Français en ont déjà entendu parler, mais peu les connaissent vraiment. Journée spéciale santé sur RTL consacrée aux maladies chroniques.
Et selon une étude Lonaris Interactive pour RTL et l'Observatoire Santé Pro BTP, seuls 13% des Français savent précisément de quoi il s'agit. Alors les maladies chroniques, ce sont des maladies avec des symptômes persistants depuis plus de 6 mois, comme le diabète. Et voilà de quoi illustrer l'adage « mieux vaut prévenir que guérir » puisque dans la Drôme, une association est la seule en France à former des chiens d'assistance pour jeunes diabétiques capables tout simplement de détecter l'arrivée d'une crise d'hypo ou d'hyperglycémie. Frédéric Perruche a assisté à leur entraînement.
Tiamo, check. Yes, bravo chouchou.
Encore une fois, Tiamo, sympathique labrador de 2 ans, a réussi sa mission. Il a reconnu parmi 4 petites boîtes celle qui dégage une odeur liée à une crise glycémique.
On lui apprend à différencier l'odeur d'une glycémie stable d'une hypoglycémie. Et il sera capable par la suite d'alerter en cas d'hypo ou d'hyperglycémie.
Et le labrador sait comment faire pour alerter son maître ou maîtresse qu'il va faire une crise, explique Emeline, son éducatrice.
Quand il sent qu'il y a une crise qui survient, il vient poquer, donc mettre des coups de museau insistants, 2 à 3 coups de museau insistants sur le bras ou sur la cuisse, sur un membre qui est accessible pour signaler que quelque chose ne va pas. Il ne va pas s'arrêter jusqu'à ce qu'il y ait une réaction de la part de la personne.
Saskia vient de passer 10 jours au centre avec son labrador qu'elle peut récupérer après 8 mois de formation et c'est un vrai bonheur pour la jeune diabétique.
Je suis moins seule face à la maladie. Parfois, c'est un peu compliqué. On est confronté à crise sur crise sur crise et c'est très fatigant. Bah, je me sens très seule par rapport à ça. Bah, l'avoir avec moi, ça va me rassurer, ça va me détendre.
Et ça sécurise énormément, bien sûr.
Oui, c'est ça. Ça rassure beaucoup.
Depuis 2018, Acadia a formé une quarantaine de chiens d'assistance grâce aux dons et aux mécènes.
Absolument fascinant. Un reportage de Frédéric Perruche pour RTL.
À 40, le docteur Jimmy Mohamed nous parlera d'une autre maladie chronique qui touche près d'un Français sur trois, l'hypertension. On en vient aux courses qui ont lieu aujourd'hui à Vincennes.
Et le départ, c'est à 20h15. Les pronostics de Dominique Cordier, le 16, l'As, le 2, le 4, le 7, le 12, le 14, l'outsider de RTL, le 4. Attention, le 9 est non partant.
Hortense Crépin nous proposait le journal de 7h sur RTL. Il est 7h10.
Dans un tout petit instant, ces entreprises qui, malgré les sanctions, continuent de fournir du matériel à l'armée russe. RTL a mené l'enquête et vous révèle ce matin des noms.
Alba Ventura, Emmanuel Macron lui réitère ses propos sur l'envoi de troupes au sol en Ukraine.
C'est vrai, ça fait deux fois qu'il le dit. Bah, pour Emmanuel Macron, il s'agit de prendre le leadership de la défense européenne.
Vous nous expliquez tout cela dans quelques minutes.
Oui.
À tout de suite.
Suivez la journée spéciale santé sur RTL en partenariat avec l'Observatoire Santé Pro-BTP. RTL.
Arnaud Touche. Une lettre d'Amérique.
Chaque mardi, je vous envoie une lettre d'Amérique et cette semaine, je vous emmène dans les salons de réception du consulat de France à New York pour parler gastronomie. Trois chefs français et une critique culinaire ont été décorés dans le plus grand salon face à Central Park. Pourquoi ces chefs ont-ils traversé l'Atlantique pour conquérir le palais des Américains? Mais aussi, comment le cassoulet est-il devenu un plat star ici à New York? Réponse dans cette nouvelle lettre d'Amérique.
Téléchargez dès maintenant une lettre d'Amérique sur l'appli RTL.
Peugeot. Nous prenons en moyenne 35 000 décisions par jour. On ne sait pas vous, mais chez Peugeot, on trouve que ça fait beaucoup. C'est pourquoi nous lançons le nouveau Peugeot 3008 hybride. Plus besoin de choisir entre électrique et thermique. Sobre et dynamique, il permet de rouler jusqu'à 50% du temps en électrique, en ville, et d'économiser jusqu'à 30% de carburant. Venez le découvrir en concession ou sur Peugeot.fr. C'est sans doute la meilleure des 35 000 décisions que vous prendrez aujourd'hui.
Suivant état de charge de batterie, style de conduite versus une motorisation thermique. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Là, vous entendez ? Et vous vous dites, bonne idée le roi Merlin, j'ai plein de temps et plein de petits travaux à faire. Sauf que là, quand je dis qu'avec le programme de fidélité, le roi et moi, jusqu'au 14 mai, vous bénéficiez de 15 euros de remise immédiate tous les 150 euros d'achat, là vous vous dites, ok, eh ben y a plus qu'à s'y mettre.
Le roi Merlin, on peut tout construire ensemble, même l'avenir.
Conditions et modalités de l'offre en magasin ou sur leroimerlin.fr.
Mais où peut-on trouver un salon de jardin à 99,99€?
Et sur ma terrasse, ça devient un salon de terrasse?
On peut dire ça. Alors rendez-vous vite dans votre magasin U et sur courseU.com du 2 au 4 mai et profitez de 50% de remise sur le salon de jardin Miami fabriqué avec 80% de matériaux recyclés, soit 99,99€ au lieu de 199,99€. Et c'est seulement du 2 au 4 mai. U, commerçant autrement.
Dont 3,80€ d'éco-participation, prix conseillé par U enseigne au magasin U participant et valable sur courseU.com pour un retrait du 2 au 4 mai inclus dans la limite des stocks disponibles.
RTL événement.
Et l'événement ce matin sur RTL, c'est donc notre enquête sur ces sociétés françaises qui continuent de fournir du matériel à l'armée russe, et ce, malgré les sanctions européennes. Bonjour Nicolas Burnand.
Bonjour Amandine, bonjour à tous.
C'est vous qui avez mené cette enquête pour RTL. Jusque-là, on connaissait les noms de Safran ou encore de Thales, des fabricants de matériel militaire français, hein, accusés par certaines ONG de continuer de faire du commerce avec la Russie. Ce matin, vous nous révélez un nouveau nom, le nom d'une autre entreprise bien plus petite, Nicomatic.
Oui, c'est une multinationale française basée à Bon-en-Chablais, au pied des montagnes, spécialisée dans la fabrication de composants électroniques vendus dans le monde entier, comme le montre ce clip promotionnel.
Les employés de Nicomatic effectuent des contrôles à chaque étape de la production. Ayez l'esprit tranquille, nous apportons une attention unique à chacune de vos commandes.
Ces produits destinés à l'électroménager, à l'industrie, à l'aérospatiale, mais surtout au secteur de l'armement, ont été retrouvés sur des équipements russes déployés en Ukraine, selon des informations confidentielles consultées par RTL. C'est ce qu'a découvert un groupe d'experts internationaux, dont fait partie Olena Bilousova.
Nous avons analysé près de 3000 composants retrouvés sur des armes russes, des missiles, des drones, des véhicules blindés, de transport de troupes, et nous avons retrouvé à l'intérieur des composants appartenant à Nicomatic. C'est la seule société française qui a doublé ses exportations vers la Russie depuis le début de la guerre.
Par exemple, des connecteurs installés dans le Corsar, un aéronef russe sans pilote, appartiennent à Nicomatic. Ce petit avion est utilisé par l'armée pour des missions de reconnaissance et de frappe. Malgré les sanctions, l'entreprise a continué de vendre ses produits en Russie.
La société ne fait pas du commerce directement avec la Russie, mais de manière indirecte, c'est-à-dire que certaines de ses filiales et distributeurs à l'étranger s'en chargent, principalement en Chine, à Hong Kong, aux Émirats Arabes Unis, grâce parfois à 5 intermédiaires différents. Ils achètent ces produits pour ensuite les vendre en Russie.
Au final, 5 entreprises basées en Russie sont suspectées d'avoir acheté du matériel auprès de Nicomatic au moins jusqu'à la fin de l'année dernière. Certaines d'entre elles sont proches du domaine de la défense ou travaillent directement avec l'armée russe.
Et alors que répond Nicomatic à ces accusations, Nicolas ?
Eh bien, l'entreprise affirme qu'elle était au courant de ces problèmes depuis le début de la guerre et qu'elle a mené une enquête interne. Elle répète qu'elle ne fait plus de commerce directement avec la Russie depuis février 2022, respecte les sanctions et les réglementations internationales. Olivier Nicolin est le PDG de Nicomatic.
Je pense pas que ce soit un manque de contrôle, c'est un manque de vigilance. On essaie de travailler avec le client final qui va utiliser nos pièces et pas des clients qui vont acheter des pièces et les revendre à droite à gauche. Et si jamais on a un doute là-dessus, on préfère ne pas vendre. Et moi, j'ai pleinement cette responsabilité d'être sûr en fait que mes composants soient utilisés dans les meilleures intentions en tout cas.
En France, la violation, le contournement de ces sanctions est passible d'au moins 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
Autre information que vous nous révélez ce matin, Nicolas, c'est que Nicomatic est loin d'être un cas isolé.
Oui, au moins une dizaine d'entreprises françaises continueraient de vendre du matériel en Russie. Il y a l'INRED, dont ses capteurs infrarouges ont été retrouvés sur des drones et des avions russes, mais également Safran et Thales, deux fabricants de matériel militaire. L'État en est le principal actionnaire. Des modèles de caméras thermiques, des systèmes de radar, des composants de moteurs, équipent des tanks ou des hélicoptères. Tony Fortin est chercheur à l'Observatoire des armements, un centre d'expertise indépendant basé à Lyon.
Toute la difficulté, c'est que ces échanges portent sur des biens à double usage, à la fois civils et militaires. Or, chacun sait que quand ils disent qu'on travaille uniquement sur des hélicoptères civils, on s'aperçoit qu'il y a une gamme qui ressemble et est destinée aux forces armées. Donc cette séparation-là, elle n'existe pas, elle est factice, mais ils jouent là-dessus pour pouvoir poursuivre leur commerce.
Aujourd'hui, des ONG demandent au gouvernement français de mieux contrôler les exportations de ces entreprises et préserver ainsi la vie des civils bombardés quotidiennement par l'armée russe en Ukraine.
Enquête signée Nicolas Burnand. Et il y a donc, et c'est ce qu'on vous apprend ce matin sur RTL, des entreprises françaises qui continuent de fournir du matériel russe à l'armée, à l'armée russe, et ce malgré les sanctions européennes.
RTL, il est 7h17.
RTL Matin.
Bonjour Alba Ventura.
Bonjour à tous.
Dans un entretien à l'hebdomadaire britannique The Economist, le président Macron assume la possibilité d'envoyer des troupes au sol si les Russes percent la ligne de front et si les Ukrainiens le demandent. Alba, c'est la deuxième fois qu'Emmanuel Macron évoque l'envoi de troupes en Ukraine. Pourquoi enfonce-t-il le clou comme ça ?
Pour montrer qu'il est droit dans ses rangers, que l'hypothèse d'envoyer des troupes au sol en Ukraine, ce n'est pas une fable. Alors attention, il ne s'agit pas de déclarer la guerre non plus, mais ces derniers temps, Emmanuel Macron a acquis deux convictions. La première, c'est qu'il faut hausser le ton face à Vladimir Poutine, face à quelqu'un qui ne comprend que la force. Il faut être aussi déterminé que lui. Et c'est d'ailleurs ce qu'il dit dans le journal The Economist. « Je n'exclus rien car nous avons face à nous quelqu'un qui n'exclut rien. » Dans un monde en fait qui vacille, un monde instable, eh bien Emmanuel Macron s'est finalement forgé l'idée qu'il faut parler plus fort.
Et sans d'autres convictions ?
Alors Emmanuel Macron est convaincu que c'est à la France de prendre le leadership et il a raison. Alors c'est vrai que ça secoue. Il y a 2 mois, quand il avait fait son annonce sur l'envoi de troupes en Ukraine, il n'avait pas vraiment fait consensus. À part les pays baltes et la Pologne directement menacés par la Russie, tous les autres pays européens avaient pris leur distance. Quand il parle de l'arme nucléaire dans la défense européenne, ça secoue aussi, mais il faut poser le débat parce que l'enjeu en fait est de savoir si l'Europe peut se défendre toute seule, sans les États-Unis. C'est ce qui peut arriver assez vite. Voilà pourquoi le président Macron est à l'initiative. Vous savez, on a parfois tendance un peu à ricaner, à se moquer de nous-mêmes et de la position de la France, mais enfin, faut pas sous-estimer quand même la voix de la France.
Alors justement, est-ce qu'Emmanuel Macron imagine que finalement tous ces débats peuvent avoir un écho sur le plan intérieur à quelques semaines des élections européennes ?
Bon, évidemment, il y a ce calcul-là aussi. Quand il parle de l'Europe qui peut mourir, comme il l'a fait la semaine dernière dans son discours de la Sorbonne, il cherche à réveiller les Français, à les intéresser au scrutin et à faire passer le message qu'il est en position de les défendre. Et d'ailleurs, les Français sont favorables à une défense commune. Hein. Le sondage ELA pour le journal Les Échos publié ce matin montre quand même que 67% des Français estiment que l'union fait la force.
Oui.
Mais bon, c'est pas gagné, parce que dans le vote des Français qui se déplaceront le 9 juin pour les européennes, il y aura le bilan de cette année au pouvoir d'Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron a beau parler des liens du Rassemblement National avec la Russie, ou accuser les nationalistes d'être des Brexiteurs cachés, autrement dit qu'ils veulent quitter l'Union Européenne, ça ne fait pas bouger vraiment les lignes, le parti de Marine Le Pen reste loin devant.
Merci beaucoup Alba Ventura, RTL, il est 7h20.
Il y a la guerre en Ukraine, le conflit aussi au Proche et Moyen-Orient. Beaucoup parlé ces dernières semaines de l'Iran. L'Iran qui autrefois était la Perse. C'est ce que nous raconte Laurent Dutch ce matin. À tout de suite.
RTL Matin.
Faire les voyages dont on a toujours rêvé une fois à la retraite, oui, ça arrive. Acheter la maison de ses rêves au Pays Basque et s'y installer, oui, ça arrive.
Mon seul critère, c'était vue sur mer.
Oui, ça aussi, ça arrive. Parce que tout arrive dans la vie avec AG2R La Mondiale. Constituez dès maintenant une épargne retraite pour préparer une retraite pleine de possibilités. Et comme 15 millions de personnes qui nous font confiance, devenez acteurs de votre avenir. Rendez-vous avec nos conseillers ou sur ag2rlamondiale.fr. AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain. Message à caractère publicitaire, tout investissement comporte des risques, y compris le risque de perdre ton capital.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron, ils les ont à 1,79€.
Les avocats ?
Très oui, en ce moment chez Lidl, l'avocat est à 60 centimes la pièce.
Quoi ? 60 centimes la pièce en lot de 3 ? Ils sont encore et toujours moins chers que nous.
C'est l'avocat Sion de Lidl, non ?
Avec des avocats à ces prix-là, y a plus de justesse, ouais.
Et on est juste mal.
Lidl, partenaire officiel de l'UEFA Euro 2024. Catégorie 1, origine Kenya, Pérou, Brésil, Afrique du Sud ou Israël selon arrivage en supermarché. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Vous en connaissez beaucoup des magasins qui, comme la paire, arrivent à faire rimer C'est nouveau avec comment ? C'est déjà en promo ? Jusqu'au 27 mai, profitez de jusqu'à 15% de réduction sur la nouvelle gamme de fenêtres PVC et d'un financement 20 fois sans frais. Une offre comme ça, même chez la paire. Il n'y en a pas deux. Offre de crédit affectée 20 fois sans frais, valable du 2 au 27 mai pour tout achat de 1500 à 15 000 euros. Après accord par Sofinco, marque de CA Consumer Finance Prêteur. Droit légal de rétractation, coût du crédit pris en charge par votre magasin. Conditions sur lapaire.fr.
RTL. Entrée dans l'histoire.
Bonjour Laurent Deutsch.
Bonjour à tous.
En ces temps de tensions internationales où l'Iran, et on en parle souvent, joue un rôle central dans la problématique au Moyen-Orient, vous avez choisi ce matin, Laurent, de nous parler justement de l'histoire de ce pays.
De l'Iran, qui s'appelait jadis la Perse. Alors, c'est une très riche et très longue histoire. Hein. Difficile de résumer 3 millénaires en une chronique de 3 minutes. Mais en gros, il y a à peu près 3000 ans, des peuplades d'origine indo-européenne quittèrent l'Asie centrale pour venir s'établir sur les plateaux de l'actuel Iran, qui forme une forteresse naturelle. Ce territoire, ils le baptisent Iran, un terme sanskrit qui signifie « le pays des nobles ».
Mais alors pourquoi parle-t-on de la Perse et non plus de l'Iran pendant toute l'Antiquité ?
En fait, la Perse, c'était une région méridionale de l'Iran. Et ce qui va la faire connaître au monde entier, ce sont les conquêtes de Cyrus, un roi des Perses qui va parvenir à rassembler sous son autorité tous les peuples du plateau iranien pour les entraîner à la conquête de l'Orient, de la mer Égée à l'Indus. Il va leur fonder le plus vaste empire du monde, qui connaîtra son apogée sous le règne de Darius le Grand, avec un état bien administré, moderne et avec de sublimes cités à l'architecture grandiose.
Ah oui, la Grande Babylone.
Exactement. Et bien sûr, Persépolis. Ces villes abritaient de vastes jardins clos appelés Peridesa, terme qui donnera en français le mot paradis. C'est dire si la Perse antique était synonyme de grandeur.
Pourtant, le régime iranien actuel se réclame plutôt de la période musulmane qui suit.
Oui, car la Perse sera conquise par les Arabes au milieu du 7e siècle après Jésus-Christ. Elle tombe alors sous l'autorité d'un calife, établi à Médine, puis à Damas, en Syrie. Et lorsqu'un siècle plus tard, à la faveur d'un changement dynastique, le calife, qui je le rappelle, est le chef de tous les musulmans sunnites, déplace sa capitale à Bagdad, dans l'ancien empire perse, Alors, ce sont toutes les élites musulmanes qui s'imprègnent de culture persane.
Et on pense notamment au fameux conte des mille et une nuits.
Oui, avec les aventures de Scheherazade, Simbad le marin, Aladdin et bien sûr Ali Baba et les 40 voleurs. L'Iran musulman connaît son apogée intellectuelle aux alentours de l'an 1000 avec le poète Firdousi et surtout avec le savant Avicenne. Ce philosophe et médecin de langue persane qui aura une influence considérable sur tous les penseurs occidentaux.
Alors, c'est au début du XVIe siècle que le chiisme est instauré officiellement en Iran. De quoi s'agit-il exactement ?
Alors, quoique minoritaire, le chiisme, c'est l'autre branche principale de l'islam, avec le sunnisme. Mm-hmm. Il vient de l'expression arabe « Shia Ali », c'est-à-dire les partisans d'Ali, qui était le cousin et le gendre du prophète Mahomet. Alors, ce serait trop compliqué d'en expliquer les nuances, mais il va s'imposer en Iran face au grand rival sunnite, l'Empire ottoman. Les dynasties se succéderont jusqu'à celle des Pahlavis, fondée en 1925 par Reza Khan. C'est lui qui décide de redonner officiellement à son pays le nom d'Iran, que les habitants n'avaient jamais cessé d'utiliser, le mot perse étant plutôt réservé aux occidentaux. Et c'est de cette dynastie des Pahlavis que descend le dernier Shah d'Iran, c'est-à-dire roi d'Iran, renversé en 1979 par la révolution islamique, dont découle le régime actuel.
3000 ans d'histoire résumés en 3 minutes.
Naïf.
Bravo Laurent, merci beaucoup. On vous retrouve demain 13h30 comme chaque samedi sur RTL pour nous parler de qui ?
Ah, demain on va parler de celui qui a fondé l'Académie française, le génial ministre de Louis XIII, Richelieu, qui a voué sa vie au rayonnement de la France.
Très belle station de métro.
Il est 7h25 sur RTL. Dans 5 minutes, le journal et à la une Sciences Po Paris qui restera fermé aujourd'hui. Décision de la direction alors que plusieurs dizaines d'étudiants occupent à nouveau les lieux. Le foot, l'OM peut encore y croire. Match nul un partout hier soir contre les Italiens de l'Atalanta Bergame. C'était au Vélodrome. Le match au retour aura lieu jeudi prochain en Italie pour une place en finale de la Ligue Europe. Marina Giraudeau, notre temps, on va dire que c'est un petit peu mieux.
Oui, c'est un peu mieux, notamment sur la région centrale du pays, en Ile-de-France, avec quelques éclaircies, beaucoup moins d'averses, mais bon, c'est un temps changeant, vous imaginez ce qui va arriver.
Et tous les matins, nous retrouvons les meilleurs moments de nos grosses têtes. Et pour terminer la semaine, bon, un bon concours de fake news, on va pas s'en priver.
Jeux olympiques. On ne sait pas encore si c'est Aya Nakamura qui chantera lors de la cérémonie d'ouverture, mais on sait déjà que ce n'est pas Kenji Girac qui tiendra le pistolet du coup d'envoi du marathon.
Valérie Mérès.
Gérard Depardieu en garde à vue pendant plus de 10 heures. Au bout du 10e verre, c'est le commissaire qui a gagné par 3 ballons de rouge à 2, 3 Ricard partout et 4 cognac à 3.
Florian Gazan.
Disparition de Paul Auster, son épouse Annie Morose et sa fille Jeanne Sévère ont fait savoir que pour les obsèques, c'était ni fleurs ni sourire. En France, c'est Elisabeth Borne qui prononcera un discours écrit par Jean-Philippe Janséniste.
Le concours de fake news tous les jours dans les grosses têtes, vous les retrouvez entre 15h30 et 18h sur RTL. Il est 7h26, très bon début de journée.
RTL Matin, 7h-9h. Amandine Bégaud.
Bonjour, c'est Flavie. Papillomavirus, cancer, ado, il est des mots qui inquiètent. Et en tant que maman, je vous comprends. Le virus HPV touche 8 personnes sur 10 et peut provoquer des cancers. Mais que l'on peut prévenir grâce à la vaccination et au dépistage. Parlez-en à un professionnel de santé.
Contre le papillomavirus, protégez vos ados en collaboration avec MSD.
RTL.
C'est le printemps et donc la saison des délicieuses fraises françaises. Savourez dès maintenant nos gariguettes, ciflorettes, charlottes et autres fraises rondes. Les fraises de France sont uniques en goût. Laissez-vous aller. Spot financé par les producteurs de l'AOP nationale Fraises Framboises de France.
La vie claire.
Voulez-vous une offre bio qui vaut vraiment le goût ? En ce moment chez La Vie Claire, profitez de moins 15% sur tous nos pains bio, dont nos 22 recettes exclusives. Et dès 30 euros d'achat, on vous offre un pain sportif. Alors, ça vaut le goût ou pas ?
La Vie Claire, la bio clairement engagée.
Offre limitée à une personne et par foyer, voire conditions sur laviclaire.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Pour certains, le bonheur, c'est de tout posséder. Pour d'autres, de tout partager. Pour Maxiso, le bonheur, c'est de tout donner. En ce moment, pour votre félin, le sac de croquettes Royal Canin 4 kg pour chat stérilisé est à seulement 36,99€. 36,99€ au lieu de 39,99€, soit 9,25€ le kilo. Car nous sommes heureux quand vous l'êtes. Maxiso, tout pour vos animaux. Réélu meilleure chaîne de magasins 2024, catégorie animalerie, aliments pour animaux. Offre valable jusqu'au 8 mai en magasin et sur maxiso.fr.
RTL Matin.
Pour profiter de l'été, Batiman, spécialiste de la protection solaire, installe chez vous store, pergola, brise-soleil, sur mesure et motorisé.
Marina Giraudoux, nous sommes donc à l'orée du week-end, je le rappelle. On va faire tout cela en deux temps. On va commencer d'abord par cette nouvelle perturbation qui arrive par l'ouest.
Exactement, par l'Atlantique. Donc c'est assez calme ailleurs. Enfin, on a les restes de la perturbation d'hier quand même, oui. Des Alpes en allant vers le Grand Est et le Nord-Pas-de-Calais. Mais il y a cette nouvelle qui arrive par l'Atlantique. Entre les deux, c'est plutôt calme. Pas d'averse et un ciel partagé entre de belles éclaircies, puis parfois des passages nuageux variables, en tous les cas mieux que ce qu'on a eu ces derniers jours. Mais c'est vrai qu'il y a cette perturbation qui arrive par l'Atlantique et d'ici à la fin de la journée, elle va le finir par toucher les deux tiers du pays. Donc profitez des éclaircies qui peuvent durer une bonne partie de la journée quand même, puisque la perturbation commencera par la Bretagne, Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine. Puis la Normandie, le centre Val-de-Loire, l'Auvergne, l'Île-de-France jusqu'à la Bourgogne. Ça restera beau en allant vers la Méditerranée. La Corse qui a des averses ce matin et qui a eu pas mal de pluie cette nuit retrouvera du soleil cet après-midi. Même chose pour le Grand Est, des averses ce matin, mais vous avez retrouvé du soleil cet après-midi.
Alors voilà pour les pluies. Côté température, c'est toujours frais pour la saison.
Oui, c'est frais. Alors ce matin, comme il y a des éclaircies, on est à 3, 4, 5 degrés là sur le sud-ouest, donc c'est un petit peu frais. C'est en baisse. Cet après-midi, les températures vont remonter, mais en effet, ce sera toujours frais pour la saison puisqu'il ne fera que 12 à Aurillac au meilleur de la journée, 15 à Lille, à Bourges et à Orléans, 16 au Mans et à Mulhouse, 17 à Paris, Lyon et Strasbourg, 19 à Marseille et 20 à Toulon.
Et juste en un mot, le week-end ?
Le week-end, on aura de nouvelles perturbations pluvieuses. Pluie.
Je ne sais plus quoi dire.
Moi non plus. Il faut vendre des parapluies, en fait, on aurait fait fortune.
C'est clair.
Allez, RTL, il est 7h30.
RTL Matin. Amandine Bégaud et Yves Calvi.
Et le journal avec Antoine Cavallero. Bonjour Antoine.
Bonjour Amandine, bonjour Yves et bonjour à tous. C'est une information RTL ce matin. 10 mois après la mort du jeune Naël, tué par un tir policier après un refus d'obtempérer, c'était à Nanterre, près de Paris. Les experts de l'IRCGN ont rendu leur verdict. Plana Radenovic, les mots « balle dans la tête » ont bien été prononcés.
Oui, des mots prononcés par l'un des deux policiers mis en cause. Donc sur ce point, les gendarmes de l'Institut de Recherche Criminelle valident le rapport de leurs homologues policiers de l'IGPN, la police des polices, qui attestent avoir bien entendu « balle dans la tête » dans les enregistrements sonores de la scène. Mais un point faisait débat. Le policier a-t-il dit avant de tirer « shoot-le » comme l'attestent plusieurs témoins ou « coupe-le », sous-entendu, le moteur, comme il l'a défendu devant les juges. Sur ce point, l'IRCGN ne tranche pas. La qualité du son, une voix captée de loin par un téléphone portable, ne permet pas aux experts de se prononcer.
Plana, une reconstitution va avoir lieu dimanche. Comment va-t-elle se dérouler ?
Alors les deux policiers vont rejouer le drame à Nanterre, pile là où ça s'est passé. Confronter leurs gestes à la réalité du terrain, la reconstitution va commencer à 9h dimanche matin, protégée par un vaste périmètre de sécurité. Les policiers auront des gilets pare-balles et des casques de moto. Le principal mis en cause aura aussi une cagoule pour ne pas qu'on le reconnaisse, précise son avocat à RTL, car ce dernier a été la cible déjà de nombreuses menaces de mort. Tout l'enjeu sera de déterminer si le policier au moment du tir était ou non en danger. Aurait-il pu reculer ou était-il coincé entre la Mercedes jaune conduite par Naël et un muret ? Un aspect capital. D'ailleurs, les magistrats ont fait en sorte que la reconstitution se déroule avant des travaux prévus sur cet axe, avant que le muret ne risque d'être détruit.
Plana Radenovic du service police-justice de RTL.
Rebelote à Sciences Po Paris, la direction obligée de fermer les locaux aujourd'hui.
Car ils sont de nouveau occupés. Quelques dizaines d'étudiants pro-Gaza organisent un sit-in. Des actions similaires organisées à Lille, à Lyon ou encore à Saint-Étienne. Faut-il craindre un risque de contagion dans les facs françaises ? Le patron du CRIF, Jonathan Arfi, est l'invité de RTL dans quelques minutes. En tout cas, Joe Biden, lui, se montre ferme. Après 2 semaines de contestation sur les campus aux États-Unis, le président américain le dit, l'ordre doit prévaloir.
À propos de l'Ukraine, Emmanuel Macron n'en démord pas.
Le président de la République l'a redit dans The Economist. Oui, la France pourrait envoyer des troupes au sol avec 2 conditions, 2 lignes rouges si la Russie perce des lignes de front, si l'Ukraine nous demande de l'aide. Un discours salué par le général Dominique Trinquant, l'ancien chef de la mission militaire française à l'ONU, était l'invité hier de RTL. Bonsoir.
Alors écoutez, depuis 2 ans, on n'arrête pas de craindre les lignes rouges de Poutine. Il est temps que ce soit Monsieur Poutine qui craigne les lignes rouges occidentales. Et la ligne qui a été tracée par le président est une offensive majeure russe qui casse le front ukrainien. C'est à ça que doit penser Monsieur Poutine. Il est temps que ce soit lui qui doute et non pas nous.
La déclaration d'Emmanuel Macron qui fera sans doute réagir dimanche dans le grand studio RTL. Un grand jury RTL, Le Figaro, M6, Paris Première, LCP, exceptionnel. Pour la première fois, les 7 têtes de liste réunies pour débattre. Ce sera en direct de midi à 14h sur RTL et Paris Première. Ce sera à partir de 18h sur LCP.
C'est une première en France, un site de production d'eau minérale visé par un acte de malveillance.
Une explosion dans une usine de Volvic. C'était dans la nuit de mardi à mercredi dans le Puy-de-Dôme. Et les soupçons se dirigent vers des militants écologistes. Un tag a en effet été découvert. Extractivisme de l'eau nommé à l'eau. En attendant les résultats de l'enquête, Guillaume Frixon, l'usine est à l'arrêt.
C'est un incendie qui a carbonisé un petit local technique de 20 mètres carrés à peine et qui fournit en énergie tout le site de production situé à quelques kilomètres de là. Conséquence, depuis hier, plus une seule bouteille ne sort du site. En temps normal, Volvic en produit près de 3 millions en une seule journée. Emmanuel Girardin est le directeur de l'usine.
C'est quelque chose qui a été visiblement bien préparé. On est content qu'il n'y ait pas de blessés. Il n'y a pas d'impact sur la qualité du produit. On est sur un enjeu technique.
Alors le local visé se situe en pleine forêt sur l'aire de pompage des sources des eaux de Volvic. Deux personnes encagoulées ont été repérées sur les images de vidéosurveillance de ce site très protégé. L'incendie aurait été provoqué avec de l'essence et une inscription sur le mur dénonçant, je cite, l'extractivisme de l'eau a aussi été découverte. Laurent Thévenot est le maire de la commune de Volvic.
Là, il y a une étape qui a été franchie et franchement, c'est plutôt inquiétant quand même.
La production des eaux de Volvic devrait reprendre dans le courant de la journée.
Reportage de Guillaume Frixon en Auvergne pour RTL.
On termine avec le foot, l'OM peut encore y croire.
Les Marseillais peuvent toujours rêver d'une finale de Ligue Europe. Hier soir, ils ont fait match nul, un but partout face à l'Atalanta Bergame. Le match retour, c'est jeudi prochain, ce sera en Lombardie.
Merci beaucoup Antoine Cavallero. On vous retrouve tout à l'heure à 8h30. Hein.
Tout à l'heure, 8h30.
Rendez-vous est pris, c'est formidable. François Langlais.
Bonjour.
Bonjour. Alors ce matin, vous vous intéressez à ce que vous appelez l'illusion des centenaires. Comment ça, ils n'existent pas?
Je vais vous raconter une histoire incroyable, tirée d'une étude d'un démographe qui montre que les centenaires seraient beaucoup moins nombreux qu'on ne le pense.
Bon, alors les centenaires, c'est bidon, vous nous expliquez tout ça dans un instant.
7h, 9h, RTL Matin.
Lorsqu'Hélène ouvrit son colis Amazon, elle eut des papillons dans le ventre. Ce double compartiment, ces 8 modes de cuisson, c'était la frite sans huile de ses rêves. À un prix si bas qu'elle ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des produits très bien notés à des prix que vous allez adorer. Découvrez nos offres dès maintenant sur Amazon.
Carrefour. Avec votre carte Carrefour, il y a 30 euros offerts en bons d'achat des 100 euros d'achat sur tout l'alimentaire, l'hygiène, la beauté, l'animalerie, les produits d'entretien, même en promotion. Et c'est jusqu'à dimanche dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Hors alcool, parapharmacie et petit électroménager dans la limite de 3 bons d'achat de 10 euros, modalité complète sur carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
RTL Matin.
Il est 7h36 sur RTL. L'Anglais Co avec vous, François Langlais.
Bonjour à tous.
Les centenaires seraient donc 500 000, 500 000 dans le monde, oui, selon les chiffres officiels, hein, dont 30 000 en France. Mais une étude récente d'un démographe australien jette le discrédit total sur ce chiffre.
Étude passionnante.
Ah oui.
De Sam Newman, qui est démographe australien, en effet, à l'université britannique d'Oxford. Newman est parti d'un constat à peine croyable. Mm-hmm. Les fameuses zones bleues, c'est-à-dire les régions de la planète où la concentration de centenaires est la plus élevée, sont souvent les régions les plus déshéritées au plan économique. Celles où la pauvreté est la plus forte, où la criminalité règne, et où les indicateurs de santé sont les plus médiocres.
Mais attendez, alors, on explique au contraire la longévité par une bonne hygiène de vie, une alimentation saine. Ce ne sont pas vraiment les caractéristiques des poches de pauvreté, que je sache.
Non, c'est vrai, c'est tout à fait juste. Mais d'où la thèse de Newman ? La forte proportion de centenaires dans ces zones s'explique en réalité par des fraudes et des erreurs massives.
Des fraudes ? De quoi parlez-vous ?
Des fraudes à la pension de retraite, perpétrées par les enfants ou le conjoint du survivant. En Grèce, en 2011, quand le gouvernement a fait le ménage dans le système de retraite, il a découvert que la quasi-totalité des centenaires, 9000, ils étaient morts.
Non.
Si ! Au Japon, on a découvert en 2010 le corps momifié de l'homme réputé être le doyen de Tokyo. Ça faisait 32 ans que la famille vivait grâce à sa retraite, avec l'oncle Mitsui Hirato qui était dans le placard à balai.
Formidable. Mais dites-moi, le Japon, c'est quand même là où les centenaires sont les plus nombreux.
Bah, c'est ce qu'on croyait. Et étonnamment, à Okinawa, on a fait d'ailleurs tout un foin sur le régime alimentaire de cette île, notamment la miraculeuse patate rouge, supposée avoir toutes les vertus. En réalité, 90% des certificats de naissance ont été détruits en 1945, lors de l'occupation de l'archipel. Ce sont les Américains qui les ont rétablis, mais ils ne parlaient pas japonais.
Non.
Et ils l'ont fait à partir des déclarations des citoyens. Bon, inutile de dire que ce n'est pas très fiable. Et par ailleurs, Okinawa est la région du Japon où il y a le plus de fast-food et où les obèses sont les plus nombreux de toutes les provinces nippones, avec le taux de chômage le plus élevé du pays.
Bon, je résume. Tout cela est bidon ?
Bah écoutez, autre exemple, la Sardaigne, considérée elle aussi comme une zone bleue, parce que la proportion de centenaires y est la plus élevée parmi les 114 régions italiennes. Le problème, c'est que c'est aussi la région avec le taux de survie le plus faible après 55 ans. Bon, c'est un peu contradictoire. Celle où la criminalité est la plus élevée, tout comme le chômage. Au Royaume-Uni, zone bleue à Tower Hamlet, le plus pauvre des 32 districts de Londres, avec la plus faible proportion de non-agénaires de tout le pays. Manifestement, certains avaient oublié de déclarer la mort de la grand-mère. Et autre record de centenaires, à Nicova, au Costa Rica, qui a les mêmes caractéristiques.
Mais alors, ces histoires de centenaires, c'est des fraudeurs à chaque fois ?
Écoutez, sans doute pas mal, mais aussi des erreurs, des confusions causées par la destruction de documents d'état civil lors du XXe siècle et de ces catastrophes.
Oui.
On n'est pas prêt de perdre le record de la doyenne du monde, toujours détenue par une Française, Jeanne Calment, morte en 1997. À 122 ans, 5 mois et 14 jours, elle était née en 1875 et elle avait connu Van Gogh.
Ben voilà. Merci beaucoup François Langlais pour toutes ces précisions perturbantes et amusantes.
Il est 7h39. Dans un tout petit instant sur RTL, le président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Bonjour Yonatan Herfi.
Bonjour.
Et bienvenue sur RTL, le CRIF qui organise lundi son dîner annuel dans un contexte, il faut le dire, bien particulier. Multiplication des actes antisémites, mobilisation aussi pro-palestinienne dans les universités. On va y revenir longuement, mais d'un mot, quel est le sentiment ce matin de la communauté juive en France ? La colère, l'inquiétude ?
L'inquiétude, évidemment, parce qu'il y a eu une flambée des actes antisémites depuis le 7 octobre et que ça interpelle sur le cadre de notre société, la manière dont on peut être sereinement juif aujourd'hui dans la société française.
On ne peut pas être sereinement juif dans la société française.
Sereinement, non. On peut l'être, on doit l'être, on va se battre pour l'être, mais sereinement, non.
A tout de suite.
Suivez RTL en vidéo sur rtl.fr. Il était une fois un charmant jeune homme super stressé par l'arrivée imminente de sa dulcinée. Vite, vite, une idée pour dîner. Oh, les tomates rondes en grappe Origine France à 1,99€ le kilo chez Aldi. C'est parti pour la recette adorée de sa belle, les tomates à la provençale. Eh, t'as géré, mec. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, vendu en vrac, offre valable jusqu'au samedi 4 mai. Info sur aldi.fr.
Avouez-le, c'est bien pratique les vélos électriques. Surtout quand les beaux jours reviennent et que vous rêvez de petites balades en forêt.
Comment ça, petites ?
Ok, alors pour les petites et les grandes virées, chez Decathlon, on a conçu un vélo tout chemin électrique avec une autonomie jusqu'à 100 km. Et pour vivre le sport grandeur nature, cette semaine, le vélo électrique Riverside 520E est à 999€ au lieu de 1399, soit 400€ de réduction.
Decathlon, élu meilleure chaîne de magasins de sport de l'année.
Ce soir dès 20h dans RTL Foot, suivez le match en direct et en intégralité. Tous les buts, toutes les réactions, la Ligue 1, c'est ce soir sur RTL, avec Winamax.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Grand frais.
Oui, bonjour, c'est la fleuriste. Dites pour l'envoi du bouquet à votre femme. Je peux pas, j'ai grand frais. Ils ont une succulente financière de veau, rapide et facile à cuisiner. Au top. Sinon, il y a des coquelicots sur le bord de la nationale.
Chez Grand frais, jusqu'à samedi, la financière de veau 100% français est à 19,99€ le kilo. Régalez-vous, faites vos courses.
Grand frais !
Le meilleur marché.
Préparé sur place par votre boucher, vos 100% français, selon stock disponible, magasin participant sur grandfrais.com. Magasin ouvert ce mercredi 8 et jeudi 9 mai de 9h à 13h. Liste et horaires sur grandfrais.com. Pour votre santé, évitez de grignoter.
RTL Matin.
Il est 7h42. Amandine Bégaud, vous recevez donc ce matin le président du Conseil représentatif des institutions juives de France, Yonatan Herfi.
Le CRIF qui organise lundi, je le disais, son dîner annuel dans un contexte bien particulier. Ces blocages, ces manifestations pro-palestiniennes à Sciences Po Paris, mais aussi dans plusieurs universités, à Lille, à Lyon ou encore Saint-Étienne hier. Quel regard portez-vous sur ces mobilisations ? Est-ce que tout cela vous inquiète ?
Il y a un risque, c'est celui que s'impose une terreur intellectuelle, une chape de plomb sur nos universités qui ferait que des étudiants juifs ne pourraient plus étudier sereinement, mais pas seulement des étudiants juifs, parce qu'au fond, derrière ce discours sur soi-disant la liberté d'expression, c'est une vraie menace sur la liberté académique, la liberté d'enseigner pour les enseignants, puisque certains cours ne peuvent pas se tenir, la liberté d'étudier et de pouvoir aussi exprimer des opinions dissonantes. Je crains que demain, il y ait un diktat de la radicalité sur l'ensemble de notre monde académique.
Les étudiants juifs de France, aujourd'hui, que vous disent-ils ? Ils peuvent aller en cours ou pas partout ?
Très concrètement, certains étudiants font le choix d'éviter d'aller en cours parce qu'il y a une atmosphère qui leur est insupportable, un climat parfois d'intimidation, une assignation aussi à répondre de ce qui se passe au Proche-Orient. Autrement dit, un étudiant juif ne peut plus être un étudiant ordinaire, parfois dans les universités françaises.
Il est d'abord juif.
Il se retrouve d'abord assigné à son identité juive, obligé de répondre à des interpellations de militants pro-palestiniens qui viennent, au fond, renvoyer cet étudiant à la question du Proche-Orient sans cesse. C'est une forme d'antisémitisme, il faut le dire, parce que c'est une manière de discriminer ces étudiants.
Mais on peut tout à fait être pro-palestinien, s'alarmer de ce qui se passe à Gaza sans pour autant être antisémite, vous êtes d'accord
avec
sûr. Ça ?
Bien sûr, évidemment, et il y a toujours eu des voix de sensibles à la cause palestinienne à travers l'histoire, et c'est important qu'elles existent.
Et vous reconnaissez, vous aussi, que ce qui se passe à Gaza...
Je le dis très clairement, je me désole de toutes les détresses de population civile, quelles qu'elles soient, qu'elles soient israéliennes ou palestiniennes évidemment, et en particulier à Gaza, ça va de soi. Néanmoins, dire ça ne permet pas toutes les radicalités, ne permet pas les modalités de mobilisation qu'on a vues, les blocages, les intimidations et les discours haineux, parce que dans les slogans qui ont pu être portés, il y a des discours qui sont en soi porteurs d'une volonté d'éradiquer l'État d'Israël ou de stigmatisation des Juifs.
Est-ce que vous diriez que ceux qui bloquent aujourd'hui les facs, ceux qui manifestent notamment à Sciences Po Paris, sont tous antisémites ?
Non, ils ne sont pas tous antisémites, évidemment, et je ne me trouverai jamais dans le camp de l'essentialisation de qui que ce soit. Néanmoins, ce que je constate, c'est que ces mouvements ont fait le choix d'une forme de radicalité qui est instrumentalisée, il faut le dire, par la France insoumise, qui est parfois aussi marquée par la présence de certains éléments liés aux frères musulmans. Donc, des acteurs qui ont un agenda politique, certains ont été repérés dans les mouvements pro-palestiniens, évidemment, parce que c'est une question qu'ils ont suivie depuis longtemps, dont ils considèrent que c'est un élément de mobilisation de leur audience. Donc, ne soyons pas naïfs sur les agendas des uns et des autres. Et ce faisant, il y a une volonté d'hystériser la jeunesse, parce que c'est une manière de semer le chaos. Beaucoup d'acteurs ont intérêt au chaos. C'est le cas politiquement de la France insoumise et c'est le cas effectivement de certains acteurs islamistes.
Vous parliez tout à l'heure de ces étudiants juifs qui hésitent à aller en cours ou certains qui ont renoncé. Ce sont quelques cas où vous avez dizaines de cas.
Alors,
centaines de cas.
Il y a, évidemment, toutes les configurations existent, et là encore, il faut raison garder dans la manière de décrire ce qui se passe. Néanmoins, l'atmosphère, le climat qui pèse dans le monde académique, c'est une réalité pour tous, étudiants juifs ou non-juifs. On parle des étudiants juifs parce qu'ils sont souvent les premiers ciblés, mais j'insiste sur le fait que ça menace tous ceux qui peuvent avoir des opinions dissonantes ou divergentes. Qu'est-ce que serait qu'une université où on ne pourrait pas exprimer une opinion dissonante par rapport à un discours dominant qui s'exprimerait ? L'université perdrait son âme. L'objectif de l'université, c'est de pouvoir quand même maintenir un cadre de débat serein où toutes les opinions puissent s'exprimer calmement et dans le respect. Et
Yonatan Arfi, la direction de Sciences Po Paris, a annoncé hier que les sites allaient rester fermés aujourd'hui, après l'installation de quelques dizaines d'étudiants au sein de l'établissement qui ont organisé un blocus. Il faut les déloger, c'est ce que vous demandez ce matin aux autorités ?
Oui, je demande aux autorités d'utiliser la force publique pour déloger ces étudiants. Vous savez, il y a quelques jours, il y avait eu une précédente occupation avec... à la fin, une négociation pour faire sortir les derniers étudiants, les 14 derniers étudiants, et une communication de Sciences Po qui avait été très, très polémique et très controversée. Je veux le dire, ça témoigne du fait que la stratégie de la négociation ne marche pas avec les radicaux. Il faut que toute la fermeté de l'ordre républicain puisse s'exprimer.
Mais la force publique sur des étudiants, ça choque certains.
Vous savez, il y a parfois nécessité d'utiliser la force publique. Si ces étudiants partent d'eux-mêmes, évidemment, il n'y en aura pas besoin à l'État de prendre ses responsabilités.
Mais il ne faut pas lâcher, c'est ce que vous dites.
Non, il ne faut pas lâcher, parce que si nous lâchons, ce qui se joue, ce n'est pas simplement le destin de nos universités, mais au fond, la nature de notre débat public de manière générale, et puis aussi la manière dont vont se passer les prochaines semaines avec les élections européennes et le risque de récupération par notamment la France insoumise.
Justement, vous évoquez la France insoumise qui a été très clairement pointée du doigt par Raphaël Glucksmann, le candidat PS Passe Public aux européennes, qui a été empêché de manifester le 1er mai à Saint-Étienne. Ces attaques, écrit-il, sont le résultat de mois de haine et de calomnie savamment orchestrés par les insoumis et par d'autres. Il évoque un climat de violence entretenu, selon lui, par des politiques reconverties en ingénieurs du chaos. Ce sont des ingénieurs du chaos, les insoumis ?
Oui, ce sont des ingénieurs du chaos. Et par ailleurs, à l'extrême gauche, on adore chasser les sociotraîtres, mais quand en plus ces sociotraîtres sont juifs, alors on s'autorise à les poursuivre avec des drapeaux palestiniens en criant Palestine.
Il y a une dimension antisémite, d'après vous, dans les attaques.
Il l'a dit lui-même, puisqu'il a reconnu qu'il a été l'objet à maintes reprises d'attaques à caractère antisémite. Et c'est une réalité, c'est que l'antisémitisme est incrusté dans une partie des discours radicaux de l'extrême gauche. Il y a non seulement un antisémitisme qui existe à gauche, mais il faut comprendre qu'il existe aussi un antisémitisme de gauche, à l'extrême gauche, dans l'histoire, ça n'est pas nouveau, lié historiquement à la question anticapitaliste, puis anti-impérialiste, et cet héritage intellectuel, doublé d'une forme parfois de fascination pour la violence, produit ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est-à-dire ce climat qui, d'une certaine manière, intimide, vise à intimider les juifs.
Et Raphaël Glucksmann qui a en effet expliqué ces derniers jours avoir reçu depuis plusieurs mois, et que ça continue ces messages de haine, souvent à connotation antisémite, ça vous surprend ?
Non, ça ne me surprend pas. D'abord, on constate que beaucoup d'hommes et de femmes politiques identifiés comme juifs reçoivent régulièrement ces menaces antisémites. Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, en a souvent parlé. Meir Habib, Jérôme Guedj, Elisabeth Borne ont reçu par le passé des lettres, des courriers antisémites, des menaces antisémites. C'est une constante de notre vie publique. On peut remonter à des figures comme Jean Jaurès ou Pierre Mendès-France et se rappeler que c'est pas toujours simple d'être une figure publique juive dans notre pays, même si la France reste un pays où les Juifs ont pu évidemment s'épanouir et s'épanouissent au présent.
Et vous avez l'impression que la France est aujourd'hui plus antisémite qu'elle ne l'a été ? Qu'une certaine France ?
Vous savez, d'abord il y a une réalité statistique que je constate, c'est que dans les années 90, on avait quelques dizaines d'actes antisémites enregistrés chaque année par le ministère de l'Intérieur. À partir de 2000 jusqu'en 2022, on a eu quelques centaines d'actes antisémites. En 2023, pour la première fois, les actes antisémites se sont comptés en milliers. On a donc un changement d'ordre de grandeur de l'antisémitisme. C'est amplifié, bien entendu, par les réseaux sociaux, c'est amplifié par la radicalité ambiante, par une société fragmentée et polarisée. Et comme souvent, quand une société va mal, la condition des juifs est un baromètre intéressant à observer.
Plus 1000% pour les actes antisémites, ce sont les chiffres que vous aviez donnés au mois de janvier dernier. Ça continue ? La tendance, ça continue à augmenter ?
Alors, la réalité, c'est qu'il y a un effet cliqué, un effet de seuil. À partir du moment où on a libéré l'antisémitisme, activé d'une certaine manière les agents antisémites dans la société après le 7 octobre, parce que c'est ça que les images du 7 octobre ont produit, une activation de l'antisémitisme, c'est très difficile de revenir à l'état précédent et de faire rentrer le diable dans la boîte.
Et c'est dans ce contexte que se tiendra lundi, je le disais, le dîner annuel du CRIF, en présence de Gabriel Attal, que débutent aussi, ça ce sera lundi matin, les assises de lutte contre l'antisémitisme orchestrées par Aurore Bergé, la ministre en charge de la lutte contre les discriminations. Que peut, que doit faire le gouvernement ? Qu'est-ce que vous demandez, Yonatan Arfi ?
Ce que nous demandons au gouvernement, c'est assez simple. C'est d'abord de poursuivre l'effort sur les questions de sécurité. C'est fait. Il y a une conscience très forte au ministère de l'Intérieur, auprès de Gérald Darmanin, sur ces sujets. Il faut le saluer dans la durée. C'est le premier point. La deuxième chose, c'est qu'il y a un effort immense à faire sur le sujet de l'éducation. Sinon, laissons l'antisémitisme s'imposer sur les nouvelles générations. Alors, nous nous promettons un futur extrêmement difficile.
Près de 13% des actes antisémites à l'école.
Exactement, on a eu, et c'est le rapport sur l'antisémitisme 2023 qui en témoignait, un rajeunissement massif des auteurs d'actes antisémites. On m'a rapporté la semaine dernière un cas d'antisémitisme porté par un enfant de CE1.
CE1.
Il faut réaliser 6, ce qu'est
ans.
Un enfant de CE1, un enfant
7
de 7-8 ans,
oui.
Effectivement, disant qu'il fallait tuer les juifs à un camarade juif de sa classe. C'est ça la réalité qui peut survenir parfois. Bien sûr, ça dit davantage quelque chose de son milieu familial que de cet enfant, mais il faut lutter contre l'antisémitisme pour la condition des juifs, mais aussi pour, j'allais dire, la santé intellectuelle de cette génération.
Et ça commence d'abord à l'école. Merci beaucoup, Yonatan Arfi, d'avoir été avec nous ce matin.
Merci à vous.
Un étudiant juif ne peut plus être un étudiant tout court dans certaines de nos universités, nos grandes écoles, vient nous dire Yonatan Arfi. Vous restez avec nous. Vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière dans un instant. Vous allez voir, c'est assez agréable.
dimanche à 12h, retrouvez le grand jury spécial élections européennes.
C'est le premier débat entre les 7 têtes de liste aux élections européennes, programme contre programme, argument contre argument. Pour qui allez-vous voter ? 2 heures d'émission pour vous faire une opinion en direct sur RTL et Paris Première, en partenariat avec M6, Le Figaro et LCP, la chaîne parlementaire.
Le grand jury spécial élections européennes, présenté par Olivier Bost, c'est dimanche entre 12h et 14h sur RTL.
Carrefour.
Quand vous me dites, alors moi je ne comprends pas les gens qui font les choses à moitié. Eh bien ça me donne envie de vous dire, achetez votre lessive chez Carrefour et recevez 50% du montant de vos achats en bon d'achat. Et c'est valable sur les lessives, même en promotion. Du coup, ah bah ça c'est la moitié qui fait plaisir. Et c'est jusqu'à dimanche dans vos hypermarchés Carrefour.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Dès 20 euros et jusqu'à 30 euros d'achat, bon d'achat valable du 6 au 12 mai, modalité complète sur carrefour.fr. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Peugeot. Nous prenons en moyenne 35 000 décisions par jour. On ne sait pas vous, mais chez Peugeot, on trouve que ça fait beaucoup. C'est pourquoi nous lançons le nouveau Peugeot 3008 hybride. Plus besoin de choisir entre électrique et thermique. Sobre et dynamique, il permet de rouler jusqu'à 50% du temps en électrique en ville et d'économiser jusqu'à 30% de carburant. Venez le découvrir en concession ou sur Peugeot.fr. C'est sans doute la meilleure des 35 000 décisions que vous prendrez aujourd'hui.
Suivant état de charge de batterie, style de conduite versus une motorisation thermique. Pensez à covoiturer.
À tous les aventuriers de la gastronomie, au premier homme qui a vu un escargot passer devant lui et qui s'est dit « Miam !» À celui qui a dit en ramassant une huître sur un rocher « Et pourquoi pas ?» Et à celui qui a pêché une lotte en pensant « C'est moche, mais si ça se trouve, c'est bon !»
C'est un peu grâce à vous si jusqu'à samedi, la queue de lotte est à seulement 14,98€ le kilo chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Pêché en Atlantique Nord-Est.
RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
RTL 7h55, Philippe Jonathan Arfi, président du CRIF, est donc resté pour votre chronique.
Est-ce que tu viens pour les vacances ? Moi je n'ai pas changé.
Non mais
Peter et Sloan.
Non.
Et puis Sloan a eu soudain envie de changer de sexe, de se convertir au judaïsme, juste avant le tournage du célèbre clip. Bonjour Jonathan, président du CRIF. Encore un juif, hein, du CRIF. Ça manque quand même de diversité, tout ça. Ils sont partout, me disait un ami antisémite. Les juifs seraient partout alors qu'ils ne sont que 15 millions sur 8 milliards. C'est dire s'ils sont bruyants, ça doit être de la faute des séfarades, à mon avis. Alors, pour un humoriste, l'antisémitisme, c'est toujours un sujet difficile. C'est un peu comme Kenji Girac avec un flingue.
Oui.
C'est un truc qu'il faut faire gaffe en le maniant. À tout moment, tu peux te tirer une balle dans le buffet.
Jonathan Arfi est le petit-neveu d'Alfred Nakache, légende de la natation française, oui. Résistant et rescapé de la Shoah.
Qui était surnommé le nageur d'Auschwitz. Spectacle extraordinaire avec Amir Ravercelli. C'est la classe d'avoir un oncle pareil. Moi, mon grand-oncle, c'était Alphonse Cavrivière. Celui que les Allemands surnommaient le Meyerbeer de Paris. Ah,
ils sont cachés en bas.
Alors, c'est pas le même destin. C'est pas le même destin qu'Alfred Nakache. Alfred Nakache est une légende de la natation. Il a survécu à Auschwitz. Il a défié les SS en nageant. Il nageait même dans le camp. Je dis pas qu'il y avait des piscines dans les camps. Hein. C'était un bassin dégueulasse au fond du camp. Mais si aujourd'hui on proposait à Alfred de se baigner dans la Seine, il dirait bon, hey, les gars, j'ai eu des ralouettes à l'époque, mais faut pas abuser non plus. Je suis pas fou. Alors, pardon, on parle du CRIF, Conseil représentatif des institutions juives de France. J'ai pas précisé ce que c'était. Qu'est-ce qu'une institution juive en France ? Ce sont les écoles hébraïques, bien sûr, les synagogues, le restaurant L'As du Falafel, Miznon, qui est juste à côté, rue des Écouffes, excellent. Et bien sûr, les boîtes de nuit du 16e arrondissement.
Oui, oui.
Voilà l'ensemble des institutions juives. En 2022, vous succédez à Francis Khalifa, le bien nommé Francis Khalifa. Alors, c'est comme être imam et s'appeler Abdel Synagogue ou Mourad Bar Mitzvah. Francis Khalifa. Dur à porter quand même. Surtout Francis. En 2024, c'est pas évident.
J'ai bien compris. Dites donc, comment on lutte contre ce fléau de l'antisémitisme ?
Alors, combien de temps j'ai pour résoudre l'antisémitisme ? Ouais. 2 minutes 30. On est large. J'ai besoin de 10 secondes max. Pourquoi c'est impossible d'être antisémite ? Pour deux raisons, toutes simples. Parce que Nathalie Portman. Voilà. Et déjà...
C'est un bon argument.
Pour moi, perso, c'est déjà fin de l'antisémitisme à mon niveau. Alors, vous allez me répondre, il y a des raisons objectives d'être antisémite en deux mots aussi, comme Rick Azaray.
Oh,
alors là, qu'on peut basculer. Sans cette chanson. Hier, c'était Papayou. Toujours des chansons de qualité. Alors, il y a plein de solutions pour résoudre l'antisémitisme. Il y a la solution du Hamas, cette magnifique ONG, qui est d'éliminer tous les juifs. C'est un peu radical, mais c'est pas faux. Ça marche. À la fin, il n'y a plus d'antisémitisme. Alors, historiquement, l'antisémitisme est d'extrême droite. Vous avez le bonheur de rencontrer maintenant l'antisémitisme d'extrême gauche. Oui. Ça vous change en cas de lassitude. Alors que si tous les antisémites du monde se donnaient la main, ben ça ferait une belle ronde de connards. Il y aurait du monde quand même dedans.
En tout cas, vous l'avez compris, notre invité réclame des sanctions disciplinaires contre les meneurs des blocus dans les universités françaises.
Et quand je vois ce qu'est devenu cette prestigieuse école, je me dis que j'ai bien eu raison de ne pas la faire. Non, mais comme quoi, être un peu con, ça peut éviter de sombrer dans l'antisémitisme. Sciences Po ou Coral Beach, Club Med, j'ai dit, allez bon, allez, Coral Beach, pareil. Alors, hier, c'était l'ESJ de Lille qui était bloqué dans Schnorr,
le
journalisme. Alors, ils sont généreux, ils sont solidaires, les gens du Nord, bien sûr. Le malheur de la Palestine, c'est insupportable. Et les gens du Nord disent, le Palestine, il n'y a plus rien, là. C'est tout détruit, les gens, ils sont pauvres. Gaza, on dirait... Gozer, on dirait Schnorr. Bon, ils sont beaux temps quand même. Voilà, alors c'est nos amis du Schnorr qu'on embrasse. C'est vrai qu'il y a un antisémitisme ambiant. Il faut lutter contre cette haine, contre ces préjugés. D'autant que toute réflexion, attention, sur une personne de confession juive n'est pas antisémite.
Non.
C'est l'occasion de jouer à notre jeu.
Ah.
Antisémite, pas antisémite. Antisémite. Je vous donne une phrase.
Oui.
Et vous allez me dire si elle est antisémite ou pas antisémite. Dire ABHL. Dis donc Bernard, reboudonne ta chemise, on voit ton nombril. Passé 70 piges, on s'habille plus comme Travolta.
C'est pas antisémite.
Ça n'est pas antisémite.
Non.
Dire à Meyer Habib, Meyer, va chez le coiffeur et le barbier, tu ressembles à un député et les filles.
Antisémite.
C'est pas antisémite.
C'est pas antisémite.